perdu des deux sèvres, quoi. Bon, on a plusieurs autres textes, hein, je citerai seulement celui d'Acrimed, une association de critiques de médias. Dans cette idée de violence médiatique qui revenait souvent, ça nous semblait fondamental qu'ils aient une place, et Benoît aussi a une très belle intervention sur le journalisme de préfecture, en fait, qui est fait pour traiter de ces sujets-là, qui marche très bien pour d'ailleurs les événements les plus récents, comme en Kanaki ou le traitement du conflit entre Israël et la Palestine. Et puis, il y a deux livrets photos, avec des photos qui montrent pas que des éléments de violence. On a tenu quand même à mettre le camion qui brûlait, parce que c'est très médiatique, mais ça nous semblait aussi important. Mais il y a aussi l'outarde, il y a des bouées, il y a les cortèges. Voilà, donc il y a aussi des affiches, des slogans qui parsèment un peu l'ouvrage sur les côtés, vous verrez. Et il y a les dessins de Club de Bridge, qui est un artiste local, qui nous a fait une très belle couverture.
Le dessin est...
Tous ces formats, en fait, il y a une cohérence. En fait, ils se répondent entre eux. Il y a des textes un peu plus techniques sur qu'est-ce que c'est une méga bassine, qu'est-ce que c'est les enjeux locaux, quoi. Quand on connaît pas Sainte-Soline, l'ouvrage en lui-même permet bien de recontextualiser. Alors bien sûr, l'objectif, c'est de produire un contre-récit aux côtés de l'ouvrage des soulèvements de la Terre, de ce qu'a fait Off Investigation, voilà. C'est une pierre à cet édifice pour dire qu'on n'oublie pas, qu'il s'est passé des choses, et puis pour rendre compte des luttes, et puis pour essayer de lutter contre ce discours hégémonique, médiatique et politique, des casseurs, des éco-terroristes, et de retenir qu'un phénomène de violence. Réanalyser le phénomène de violence, d'où il vient, quoi. Quand il y a 5000 grenades, quand il y a des quads, quand il y a deux personnes dont le pronostic vital est engagé, etc., etc. Un format qui repose sur des textes courts et des illustrations qui rend l'ouvrage facile d'accès. Donc c'est aussi un ouvrage, moi je dis souvent que je l'offre à ma grand-mère qui l'a lu, quoi.
C'est parce que c'est ta grand-mère.
Donc offrez-le à votre grand-mère, offrez-le à votre cousin, enfin voilà, et à vos parents. C'est aussi ça qui fonctionne bien.
Peut-être on peut commencer par parler du titre. Avoir 20 ans à Sainte-Soline, une référence directe à un film de René Vautier sur la guerre d'Algérie. A priori, ce parallèle entre le conflit mené par la France en Algérie et cette manifestation aussi violente qu'elle a pu être m'avait désarçonné.
Bon, bah, avoir 20 ans dans les Aurès, ce film de Vautier, sur une jeunesse qui est mobilisée de force, qui se fait complètement manipuler. On s'en justifie dans l'intro parce que on voulait garder raison. Effectivement, avoir 20 ans à Sainte-Soline, c'est pas tout à fait la même chose qu'avoir 20 ans dans les Aurès. Et en même temps, on trouvait qu'il y avait des échos, parce que au fond, voilà, on évoque une guerre de l'eau aujourd'hui, une guerre contre l'accaparement privé de biens communs, donc qui renvoie aussi aux luttes coloniales. Quand on parle de Sainte-Soline, beaucoup parlent de la bassine, donc cette énorme bassine, hein, c'était une forteresse assiégée, hein, au milieu d'un champ complètement plat d'agro-industrie. On a retourné et amené des tonnes de terre pour construire un énorme monticule qui a été ensuite creusé. C'est gigantesque, tout autour des barbelés, tout autour que des camions de gendarmerie, des gendarmes surarmés, et puis en haut, peloton de commandement.
Il y avait aussi des canons à eau.
Une référence un peu à la guerre. Il y avait l'idée d'un refus de l'accaparement des richesses naturelles de la terre, donc qui renvoyait à cette lutte de décolonisation de l'Algérie. Et puis aussi la question d'avoir 20 ans, de la jeunesse, du refus du monde tel qu'il tourne, le refus d'endoctrinement, le refus de la soumission à l'ordre militaire peut se rejouer ou en tout cas se déplacer sur une jeunesse des années 2020 dans une résistance au capitalisme. Dans le choix d'une liberté de conscience, aussi de recherche de modes de vie alternatifs. Voilà. Et puis il y a aussi, dans les deux cas, encore une fois, toute proportion gardée, mais l'expérience de la violence, de la répression, de la blessure. Donc ça, c'était un petit peu pour ça qu'on a choisi ce titre, en fait.
Dans le collectif du Loriot, il n'y en a aucun de nous qui assimile ça à la guerre, en fait, c'est pas la guerre. Et c'est aussi une référence à l'ouvrage d'un collègue qui s'appelle Henri Eckert, qui a écrit « Avoir 20 ans à l'usine » aussi, aux éditions La Dispute.
Malgré tout, c'est pas la guerre, mais on voit bien qu'en fait, dans les logiques de maintien de l'ordre, il y a une brutalisation et une militarisation. Mmh. On a tous fait l'expérience, dans les manifestations les plus pacifistes qu'elles soient, il y a une répression qui est énorme, et avec des moyens qui ne sont pas les moyens qui permettent une pacification, une gestion à distance et pacifiée, ou du moins le plus possible, comme dans d'autres pays aujourd'hui. Et c'est notamment les travaux de Fabien Jobard, qui est sociologue politiste du CESDIP, qui montrent bien ce processus depuis 20 ans de brutalisation, de militarisation, avec des moyens militaires. Enfin, c'est vrai qu'il... outre les arrêtés d'interdiction des manifestations, ben en fait on avait un déploiement de moyens incroyables, donc déjà sur la route. Une mobilisation de 3200 gendarmes et policiers, 9 hélicoptères, 4 véhicules blindés, 4 canons à eau, 4 pelotons héliportables, un peloton de 40 gendarmes montés sur 20 quads, un positionnement infranchissable de camions de gendarmerie et de barbelés autour de la méga bassine transformée en forteresse, l'utilisation de plus de 5000 grenades, dont des centaines explosives et mutilantes, contre les manifestantes et manifestants en moins de 2 heures. C'est les sources de la gendarmerie. 5000 grenades en 2 heures,
une petite seconde, un truc comme ça.
Par minute, c'est.
Ouais, une seconde et demie. Ouais.
Il y a clairement des moyens militaires qui sont mis à disposition avec un coût exorbitant pour l'État, pour les contribuables. Voilà, c'est pas la guerre, mais ça commence à y ressembler en fait, sur certains aspects. Pour défendre de la terre nue.
C'est un trou, parce qu'il n'y a même pas de tuyau, c'est un cratère vide, pas un tuyau, il n'y a pas de bâche, c'est un bout de terre. En fait, si la police ne s'était pas positionnée autour, sans doute il aurait été rebouché, la terre aurait été bougée, mais il ne se serait pas passé grand-chose dans ce champ. Donc c'est l'État qui fixe le niveau de violence.
Il y a un truc qui m'a intéressé, c'est le rapport au collectif. D'abord le collectif large, l'émotion de voir des grands cortèges, de se voir des milliers, etc. Et puis, à une beaucoup plus petite échelle, le fonctionnement en binôme, en trinôme, prendre soin des personnes avec lesquelles on est venu, qu'on soit 2, 3, 5.
Un binôme, c'est la personne avec qui vous allez à la manif ou la mobilisation, et on s'assure de la sécurité mutuelle pour pas être séparés, voilà. Ou le trinôme, c'est quand il y en a 3. Un moyen aussi de garantie à la fois de survie, du fait que ça se passe bien en fait, voilà, manif. Nuage de lacrymo, c'est fondamental en fait dans ces situations-là de ne pas être tout seul, de ne pas être isolé.
Effectivement, c'était une consigne.
Oui, c'est vrai.
Et en fait, ça fait un peu maintenant partie des modes de mobilisation en manifestation. C'est quelque chose qui est en train de se diffuser, effectivement, lié à la brutalisation des forces de l'ordre et de la répression des mobilisations sociales et écologistes. Il y a ces consignes et c'est un mode d'action qui est parfaitement organisé et qui a été transmis sous la forme de consignes en amont de la manifestation et en arrivant. C'était vraiment un mot d'ordre de trouver en fait un groupe affinitaire, de pas rester seul. Et sur cette question collective, en fait, oui, c'est quelque chose de très fort et qui a été, notamment sur ces convois, là, cette espèce de ferveur collective de la traversée des plaines pour se rendre à la bassine, puisque la manif avait été interdite, donc en fait, le point de rendez-vous était assez éloigné. On a marché une heure et, je sais pas qui était là, une heure et demie, j'ai encore oublié. On a, autre chose, on a un rapport au temps assez dilué de cette journée. Donc on marche longtemps, et ça c'est vrai que c'est quelque chose dont tous les entretiens parlent, et les témoignages directs, c'est ce sentiment de beauté, d'énergie, de sentiment qu'il faut être là, que c'est là où ça se passe, et que c'est la lutte à mener, enfin voilà.
L'irrigue ton nom mon ami, ton puits est ton ruisseau.
L'irrigue ton nom mon ami, le puits est ton ruisseau.
Tout ce qui coule, il le convoite, il te lâchera jamais la nappe.
Le maïs est soif, y'a plus d'eau pour le ricard.
Le maïs est soif,
y'a plus d'eau pour le ricard.
Ils ont fondé une COP, mon ami, d'exploitants qui écopent.
Ils ont fondé une COP, mon ami, d'exploitants qui écopent.
Ils ont fondé une COP, mon ami, d'exploitants qui écopent.
Ils ont fondé une COP, mon ami, d'exploitants qui écopent.
Ils intriguent, font des digues, sont une ligue qui nous fatigue, mais le maïs est soif, y'a plus d'eau pour le ricard.
Le maïs est soif, y'a plus d'eau pour le ricard.
Le maïs est soif, y'a plus d'eau pour le ricard.
Le maïs est soif, y'a plus d'eau pour le ricard.
Ils parlent d'agribashing, mon ami, pour construire leur bassine.
Ils parlent d'agribashing, mon ami, pour construire leur bassine.
Ils se lamentent et ils couinent, mon ami, pour bâtir leur piscine.
Ils se lamentent et ils couinent, mon ami, pour bâtir leur piscine.
C'est la goutte d'eau, y'a plus que la vase, plus c'est con et plus ça pavoise. Le maïs est soif, y'a plus d'eau pour le ricard.
Le maïs est soif, y'a plus d'eau pour le ricard.
La coppe de l'eau nous pompe, mon ami, leur chaussée faut qu'elle rompe.
La coppe de l'eau nous pompe, mon ami, leur chaussée faut qu'elle rompe.
La coppe de l'eau nous pompe, mon ami, leur chaussée faut qu'elle rompe.
La coppe de l'eau nous pompe, mon ami, leur chaussée faut qu'elle rompe.
Tandis qu'ils greenwash, mon ami, on taillera leur bâche.
Tandis qu'ils greenwash, mon ami, on taillera leur bâche.
Tout de l'eau s'écoulera, nous on n'y touchera pas.
Le maïs sera tricard, on boira du vin de la Loire. Le maïs sera tricard, on boira du vin de la Loire.
Mais le maïs sera tricard et on boira du vin de la Loire.
Le maïs sera tricard, on boira du vin de la Loire.
Et donc ça c'est quelque chose de très fort, d'avoir vécu collectivement cette journée-là, au-delà de ce qui s'est passé autour de la bassine, c'est déjà très galvanisant. Et puis l'autre dimension que tu évoquais, c'était voilà, ces binômes et ces trinômes. Comment le collectif y tient aussi avec des, ou pas, avec des désaccords de là où on a envie d'être, même si on se dit, ok, a priori, ben, on y va, on est tranquille, on est manifestant tranquille. Et en fait, ce qui se passe autour de la bassine, quand on voit cette répression, cette violence des forces de l'ordre, quand on commence à voir des blessés, quand on entend médic, médic partout, c'est d'autres choses qui sortent beaucoup des récits. Hein. Ce bruit, en fait, des jets, des grenades lacrymo ou mutilantes, plus médic, médic partout, il y a quelque chose vraiment de très oppressant, de très difficile. Et puis, bah, certaines veulent aller aider ceux qui sont en première ligne, disposés à aller à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Et parfois, ça fait éclater les binômes. Donc, c'est le cas, par exemple, de Yael et Louise, qui en fait sont pas d'accord sur la manière. Yael, il a envie d'y aller, il a envie, voilà, d'aller devant, et Louise, sa binôme, ben, elle se sent pas, elle se sent pas en sécurité, elle a pas envie, elle est pas disposée en fait à cet affrontement, à la violence, à cet affrontement physique. Donc voilà, donc c'est aussi voilà, comment ils ont réglé, ils ont trouvé d'autres personnes, ils ont recomposé sur place des binômes. Et ce que dit Louise aussi après, c'est comment on parle de cette mobilisation, de quelle manière en fait se constitue au sein du milieu militant, c'est assez vieux en fait, des sortes de gradations de légitimité dans le militantisme. Voilà, ceux qui en ont, ceux qui en ont pas, ou voilà, ceux qui sont prêts à aller au front, aller aux forces de l'ordre, à faire une action violente ou à faire une action, voilà, de désarmement, et ceux qui ne le sont pas. Et donc lui, elle dit, ben, dès qu'on parlait ensuite de Sainte-Soline, on disait, ouais, mais toi, t'étais où ? C'est-à-dire, sous-entendu, est-ce que t'étais devant, quoi ? Est-ce que t'as le droit ? Et donc, elle se pose la question, est-ce que moi, j'ai le droit de dire que j'étais à Sainte-Soline ? Parce qu'elle est restée plutôt en retrait par rapport à cette première ligne de violence. On retrouve, en fait, des questions qui sont un peu en filigrane dans les mouvements sociaux, militants, de gauche, anarchistes, autonomes, qui sont, tu fais quoi, toi, dans le mouvement ? Et on retrouve, en fait, une sorte de division du travail militant, avec des formes de hiérarchie informelle, critiquées hein, au sein des mouvements, qui sont remises en question, interrogées, parce que derrière, on retrouve aussi une division sexuelle du travail, en fait, hein, entre le travail productif du militant qui va être à l'avant, masculin, qui va être à l'avant, qui va être dans la stratégie, qui va aller au front, et puis le travail de reproduction de la force de travail, de la force militante, traditionnellement dévolue aux femmes, que là, on va retrouver dans les bases arrières. Voilà, donc on a aussi cette réflexion qui est en filigrane, qui n'est jamais théorisée.
Ces milieux d'organisation sont souvent très réflexifs hein, sur leurs pratiques. Yael, quelqu'un qui a fait Sciences Po, qui a commencé à militer à la gauche institutionnelle, en fait, et qui s'est décalé jusque très proche de la CNT, voilà. Et donc qui a été beaucoup travaillé par le mouvement MeToo, et qui, lui, avait une réflexion sur les pratiques de genre, qui remettait en question certaines choses. Et ce qu'on voit, c'est qu'en pratique, en fait, quand la situation est donnée, les dispositions, en fait, changent, et du coup, il en vient à échanger sa binôme, en fait, pour aller vers cette situation. Et en fait, cette contradiction des pratiques et des discours, il en parle justement dans l'entretien, et c'est assez intéressant de voir comment on fait face à ces tiraillements, en fait. C'est aussi ça qui éclaire pas mal ses portraits, c'est les tiraillements internes. Je pense aussi à Laura, qui est pris dans un déchirement entre sa peur de la police, son traumatisme, en fait, qu'elle a vécu durant le mouvement des Gilets jaunes, sa peur de la police, en même temps, comme elle le dit, ce pavé qui gratte sous le pied, quoi. C'est une militante anarchiste. Elle est dans une ambivalence, en fait, tiraillée entre ces deux éléments qui l'écartèlent, en fait, qui lui ont fait perdre le chemin des manifestations, qui l'ont fait quand même venir à Sainte-Soline, mais qui lui ont laissé des marques qui font qu'elle a hésité à revenir, qu'elle reviendra sans doute à la prochaine. Mais... Et donc, en fait, on est bien loin des gentils manifestants et des vilains manifestants, des casseurs et des pacifistes. On voit que dans une même personne, en fait, il y a des tiraillements.
Il y a peut-être quelque chose d'assez perceptible dans les mobilisations actuelles autour des méga-bassines, mais plus largement celles qui sont aussi portées par les soulèvements de la Terre, c'est-à-dire la logistique qui est nécessaire à ce type de mobilisation, qui sort du cadre voilà, des mobilisations anciennes, syndicales, urbaines, encadrées voilà, par des organisations syndicales. Là, c'est que il faut organiser toute une logistique pour pouvoir faire cette mobilisation. Et donc, on a besoin de cette fameuse base arrière, où là, on va garder des enfants, éplucher des pommes de terre, faire une base soin, monter des scènes pour un concert, pour des prises de parole, etc. En fait, il y a besoin d'une main-d'œuvre militante assez importante, au-delà de la manifestation ou de la manifestation. Une force de ces mobilisations-là, c'est qu'il y a cette possibilité de dire « moi, j'ai l'impression que je ne suis pas très légitime à être militante ». Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Je n'ai pas le savoir militant, je ne connais pas les grandes théories. Vous me parlez d'auteurs, je ne connais pas. Vous me parlez d'hommes ou de femmes politiques, je ne connais pas, ou de militants, je ne sais pas trop. Mais par contre, éplucher des pommes de terre, je sais faire. Ou faire un plat, ou aider voilà, l'intercantine, ou faire de l'accueil, aider d'une manière ou d'une autre, ça, je sais faire. Cette diversité des tâches militantes, en fait, elle va laisser la place à des appropriations diverses par des personnes diverses qui ont des savoir-faire et qui aussi ont cette logique qui est aussi un peu diffusée, c'est-à-dire un peu d'éducation populaire, en fait, qui vient aussi du milieu anarchiste, de le do-it-yourself, qui est, en fait, on apprend en faisant. Et donc, c'est une articulation dans ces mobilisations, il me semble, à la fois de la pensée et du travail et du faire. On a cherché à casser cette dichotomie entre violent et non-violent et à montrer que au sein même d'une personne, en fait, on est tiraillé sur ces questions de violence et que, en plus, toutes les personnes qu'on a interrogées, elles ont exprimé, en fait, la colère de ne pas être entendues, c'est-à-dire d'être violentées, justement. Pour certains, on a fait les mobilisations, les marches pour le climat. Pour d'autres, on était gilets jaunes, on s'est pris des LBD. En fait, dès qu'on proteste aujourd'hui, en fait, on est réprimé et on ne sait plus quoi faire pour être entendu. Et il y a une urgence climatique, et il y a une urgence sociale, et il y a une urgence... Et on ne sait plus quoi faire pour être entendu. Donc, particulièrement sur cette question de la violence institutionnelle, à l'entretien d'Amélie, qui est psychomotricienne et qui a travaillé en différentes institutions de soins. Quand elle va à Sainte-Soline, elle travaille en milieu carcéral. Elle a fini par démissionner aussi parce qu'elle disait « Mais en fait, la violence, je la retrouve partout et je la retrouve dans mon métier, en fait, en permanence. » Alors, on est violent entre nous, collègues, on est violent avec les usagers. En permanence, il y a des formes de violence. Sa trajectoire pour se rendre à Sainte-Soline et de la manière dont elle en sort aussi est constamment constellée de cette question-là, quoi. Comment, en fait, on est confronté à la violence, qu'elle soit symbolique, institutionnelle et là, physique, en permanence dans nos vies, alors qu'elle souhaite être, et c'est pour ça qu'elle est devenue psychomotricienne, elle dit je vais être dans le soin, moi.
Ce que je vais vous dire n'est pas scientifique, c'est ce que j'ai cru voir moi ce jour-là. Je suis très surpris de ce débat-là, est-ce qu'il y a des actions qui sont genrées ou pas, en l'occurrence la violence physique. Moi j'ai cru voir des personnes qui semblaient être des femmes habillées tout en noir, et il n'y avait pas que des hommes dans la première ligne de front, donc ça c'est l'une des choses que j'ai trouvées assez marquantes. En l'occurrence, j'ai aussi deux potes, ils épluchaient des patates, et je pense notamment à un pote qui a participé à fabriquer les délicieux moelleux à l'orange qui ont été distribués en cours des manifestations. J'avais jamais vu ça non plus, de cette manière de prendre soin, d'encadrer la manifestation. Il y avait des binômes ou des trinômes de gens avec des porte-voix, prenez soin. Moi, j'ai jamais vécu un accueil en tant que manifestant. Voilà, au niveau du care, puisque j'ai été vraiment très très surpris aussi par la bienveillance de l'orga, m'a-t-il semblé non genré. En ce qui concerne la violence physique, j'ai quand même bien cru observer qu'il y avait des jeunes hommes et a priori des jeunes femmes en noir qui apparemment savaient ce qu'ils voulaient faire.
Sur la question du genre, c'est vraiment une question super importante et intéressante. Alors, je voudrais pas avoir l'air de caricaturer en disant tous les hommes étaient au front et les femmes en bas arrière. La difficulté, en fait, quand on parle de genre, c'est qu'en fait, on parle un peu de rapport au monde, d'une intériorisation du fait de notre socialisation qui n'est pas la même selon qu'on est un petit garçon ou une petite fille et qui va produire... Donc, c'est des tendances. Aujourd'hui, je vais dire, c'est bon, on est mixte, il y a équité, là, il y a autant d'hommes que de femmes. Généralement, quand on pense ça... Dans des mondes plutôt masculins, il y a un tiers de femmes et deux tiers d'hommes, et on dit « Ah, c'est bon, on est égalité ». En fait, si tu comptes vraiment, t'as pas bien vu. Puis inversement, des fois, pour des univers très féminisés, les hommes, on les remarque plus, donc tout d'un coup, voilà. Et oui, il y avait des femmes en première ligne et des femmes très organisées parce que, effectivement, cette manifestation aussi, pour certains, elle a été saisie hein, comme une occasion, oui, d'aller à l'affrontement avec les forces de l'ordre et d'avoir des victoires symboliques sur les forces de l'ordre. Et sur le Caire, c'est super important. C'est parallèle avec la brutalisation. On sait qu'on prend le risque d'avoir de la répression policière. Ben derrière, il faut installer des soins. Quand la manifestation va durer plus de 2 heures, 3 heures, au milieu de nulle part, il faut organiser le ravitaillement. Enfin, c'est un peu cette logistique. Donc oui, il y a cette question du care, du travail de soins, qui prend plusieurs formes et qui, effectivement, est une dimension très importante de ces mobilisations.
Il y a bien 3 heures qu'on suivait l'anguille pour aller démonter les méga-bassines.
Il y a bien 3 heures qu'on suivait l'anguille pour aller démonter les méga-bassines.
Il y a bien 2 heures qu'on suivait l'anguille pour aller démonter les méga-bassines.
Il y a bien 2 heures qu'on suivait l'anguille pour aller démonter les méga-bassines.
Passons par les champs, on ramasse des pierrettes et on se divertit sur les estafettes.
Passons les champs, on ramasse des pierrettes et on se divertit sur les estafettes.
Il y a bien 1 heure qu'on suivait l'anguille pour aller démonter les méga-bassines.
Il y a bien 1 heure qu'on suivait l'anguille pour aller démonter les méga-bassines.
Traversant les champs, on ramasse des pierrettes et on se divertit sur les estafettes.
Traversant les champs, on ramasse des pierrettes et on se divertit sur les estafettes.
En traversant les champs, on ramasse des pierrettes et on se divertit sur les estafettes.
En traversant les champs, on ramasse des pierrettes et on se divertit sur les
étapettes. Il y a des témoignages intéressants parmi ceux que vous recueillez, notamment d'une personne qui dit « Mais mes parents étaient à la manif et le soir même, quand ils ont entendu les infos, ils ont limite pris le parti du récit médiatique en disant « Mais en fait, on n'a rien à voir avec tout ça, c'est beaucoup trop violent, etc. Mmh. » C'est d'autant plus intéressant que les Soulèvements de la Terre, un des principaux organisateurs de cette manif, fait depuis le début de ses actions un gros travail de mise en récit de ses manifestations et de ses actions. Ils s'expliquent dans leur livre du choix de parler de désarmement plutôt que de sabotage. Mmh. Ils mobilisent des gros moyens. Malgré cette tentative de contrôle du récit, les témoignages le montrent, ça leur échappe totalement.
Le récit, ouais. Marcel qui témoigne dans les Soulèvements de la Terre ou des discussions informelles ou aussi les critiques et les débats qui ont eu lieu suite à Sainte-Soline, avec des critiques d'un certain nombre de personnes présentes en disant bah, « En fait, vous nous avez envoyé au casse-pipe face au danger. » Voilà, des gens comme Julien Leguet de BNM, de Bassin Non Merci, ou même des gens des Soulèvements, disent tout à fait qu'ils ne s'attendaient pas à un tel niveau de répression, en fait. Ça a été même un peu difficile à un moment d'arrêter la manifestation et de retourner à la base. Parce qu'en fait, il y avait tout simplement presque un manque d'équipement par rapport déjà au nombre de personnes présentes. Mais il fallait prévenir tout le monde avec quelques mégaphones. Donc ils disaient « Non, non, il faut arrêter là, on retourne au camp ». Et en fait, ça passait très mal parce que tout le monde était très éparpillé sur un espace très large. Des mégaphones parfois un peu défectueux, un peu fragiles en termes de portée.
Contrairement à la manifestation précédente, hein, puisqu'il y a eu plusieurs manifestations anti-bassine et c'était la deuxième à Sainte-Soline, il m'a semblé voir qu'il y avait un sous-dimensionnement de l'équipement, notamment en termes de mégaphone, par rapport au nombre de militants. Ils ne s'attendaient pas, je pense, d'avoir autant de personnes, et donc l'information circulait aussi beaucoup moins bien, ce qui explique ça.
Clairement, il y a un travail actuellement fait par les Soulèvements, par BNM, de constituer son propre récit, voilà, avec un groupe spécifique dédié à ça, qui s'est constitué à l'occasion du convoi de l'eau, qui s'appelle Trace, et qui cherche à, en fait, au cours des mobilisations, à recueillir un certain nombre de traces de cette mobilisation, produire aussi sa propre histoire, en fait, et pas se laisser voler. Voilà, donc il y a des enjeux de communication. Ben, oui, il faut essayer de convaincre, de dire qui on est, et de maîtriser le récit de qui on est. Mais il y a aussi, peut-être, et nous, en tout cas, ça a été notre intention en faisant avoir 20 ans à Sainte-Soline, c'est de documenter, de dire, voilà, on contribue modestement enfin, à une histoire sociale de cette mobilisation-là, de ce mouvement-là, et c'est à la fois important pour aujourd'hui, mais c'est peut-être important aussi pour les années et les mois à venir, c'est de dire, voilà, on a une trace, on a un certain nombre de témoignages, d'analyses, d'expertises, d'expressions sur avoir 20 ans à Sainte-Soline.
L'un des grands mérites de ces témoignages et de ces récits, c'est de laisser beaucoup de place aux affects et aux émotions.
On avait une grille d'entretien commune. Des questions, c'est pas très détaillé. Quelles sont les bonnes raisons qu'ils ont de faire ce qu'ils font? Et ça joue, cette question des émotions et de pourquoi.
On a l'habitude de poser des questions sur des faits, sur des pratiques. Après, les opinions, elles viennent un peu toutes seules, parce qu'on va justifier, expliquer pourquoi on a fait ci, pourquoi on a fait... Les opinions, les affects viennent assez naturellement. C'est que les entretiens sont déroulés entre 3 et 6 mois après Sainte-Soline. Et en fait, il y avait un besoin de parler de ce qui s'était passé. Et pour certains, qui n'avaient pas eu l'occasion de débriefer avant dans des groupes affinitaires ou des groupes militants, ça a été l'occasion en fait de parler. Donc effectivement, il y a beaucoup de place aux affects. Je vais vous lire un extrait d'Amélie. Elle a une trajectoire de militante, elle a l'habitude des manifestations, elle a côtoyé un peu le Black Bloc. Elle a plutôt l'habitude et elle dit, voilà, c'est la première fois en manifestation que je ne sais pas quoi faire. Ce que beaucoup ont partagé, c'est la sidération face à ce qu'ils voient, ce qu'ils observent et ce qu'ils éprouvent à Sainte-Soline. Elle dit, en arrivant à la bassine, c'est là où on voit que tout explose, que ça pète déjà avant qu'on arrive. On est un des derniers cortèges arrivés, et là je vois un mec qui a le visage ensanglanté, je vois que ça court de partout. Et j'avoue, moi j'ai vraiment pas compris ce qui se passait. C'est la première fois en manifestation que je ne sais pas quoi faire. J'ai des potes qui prennent du blé et qui viennent tasser les lacrymos. Enfin, je les trouve formidables, ils ont déjà des prises d'initiative que je n'ai pas. Je sais pas s'il faut que j'aille chercher des cailloux pour alimenter les manifestants et manifestantes, je ne sais pas ce qu'il faut faire. À ce moment-là, je suis sidérée. Je suis en spectatrice complètement impuissante et c'est horrible comme sensation de ne pas savoir où me mettre. Donc j'ai marché un peu autour, mais un peu loin, et tout en me disant « Mais en fait, à tout moment, je me prends quelque chose. » Je ne me sentais pas à ma place. Je ne savais pas quel rôle et quelle place avoir dans la manif. Et donc je suis spectatrice, complètement spectatrice. Et en même temps, je sais que je ne peux pas faire quoi que ce soit. Ce n'est pas juste de la sidération. On ne pense à rien et on est bloqué. Non, c'est que là, je suis spectatrice et c'est insupportable. Je ne savais plus quoi faire. Même moi, je me voyais de l'extérieur, je n'étais pas dans mon corps. J'étais nulle part. Là, a posteriori, en en parlant, je me rends compte que c'était quand même vachement particulier comme expérience. Je sais que c'est violent, mais je ne sais pas ce qu'il se passe. C'est comme si tout venait, toutes les informations venaient de manière très brute. C'est là, pam pam, un enchaînement de trucs bruts. Cet état de sidération, il est assez partagé. Je me permets de lire un autre extrait de notre jeune lycéen, là, notre mascotte de 17 ans, Matisse. Il prépare vaguement le bac et il est à Sainte-Soline. Toujours au même moment, quand il arrive autour de la bassine, il dit « C'est là que je vois que ça a commencé, que les policiers ont commencé à tirer les lacrymos. On entend les explosions, on voit les fumées. Je ne viens pas pour combattre, pour être au front. » Mais en arrivant, tu vois ce tableau avec tous ces gens, cette fumée, ces véhicules de police au loin. J'ai un sentiment de pré-combat, d'avant la tempête. Il y a de plus en plus de gens autour de nous. Les policiers sont très nombreux. On contourne la bassine par la gauche. Je vois une marée humaine en train de descendre dans le champ. Je vois les fumées au loin, les explosions. Mais je n'ai pas peur. Je suis même émerveillée. Je n'arrive pas trop à décrire ce sentiment. C'est la première fois que je vois ça. Je suis impressionnée. C'est comme un tableau de bataille, même si j'aime pas utiliser ce terme. Ouais, voir autant de gens qui soutiennent une même cause, déterminés à manifester, à prendre cette bassine, qui sont là comme toi pour défendre un monde meilleur, c'est beau, c'est de l'émerveillement.
Toute petite remarque aussi sur le récit, il me semble qu'il y a une plainte qui a été déposée contre Darmanin qui a menti. Je suis assez curieux de voir ce que ça donne. Mmh. Et une question aussi, justement, est-ce que vous avez un témoignage d'un jeune qui est venu aussi dans une optique de violence et qui avait été un peu préparé là-dessus ?
On a aussi fait des entretiens avec des militants qu'on connaissait, qui sont plus organisés sur cette question de la violence. On a choisi de ne pas les garder. Il y avait un enjeu d'anonymat. Tous les noms et les parcours sont anonymisés. Là, l'anonymat jouait encore plus, puisque c'était des gens qui étaient organisés dans des milieux antifascistes, voilà. Et aussi, en fait, dans l'entretien, ces gens savaient qu'ils ne devaient pas nous dévoiler à nous des choses. Donc, en fait, ça crée des situations un peu rocambolesque des fois sur, on savait qu'il disait pas tout, enfin voilà, il baissait pas la garde quoi, donc voilà. Notre objectif c'était pas non plus de percer à jour des secrets d'organisation quoi.
Est-ce que vous êtes entretenu avec des flics qui auraient eu dans la tranche d'âge ?
Être flic à Sainte-Soline, ça sort l'année prochaine.
C'est marrant mais avoir 20 ans chez les flics à Sainte-Soline, alors on s'est pas du tout posé la question. Bon, ça aurait été aussi compliqué, je pense, que de trouver la parole d'un fonctionnaire de police.
C'est la gendarmerie, hein, c'est la grande muette.
Peut-être.
Faudrait trouver des démissionnaires.
Ça doit exister. Hein, mais...
Un fils de gendarme. On parlait des tiraillements, par exemple. En fait, ils ont tous un certain nombre de tiraillements. Amélie, son père, il est agriculteur conventionnel. Mais je suis en train de trahir mon père en allant là-bas.
Louise, son père, son beau-père est gendarme. Et Simon, son frère est gendarme, son père
son
est gendarme.
Son père, il est en rupture avec sa famille. Il a peur de se dire, en face de moi, en fait, ça se trouve, c'est mon père ou mon frère.
il a grandi en caserne et il a un certain nombre des potes
d'amis d'enfance
qui sont gendarmes.
Puis lui, il est avec un groupe affinitaire assez déterminé. En montant dans la voiture, voilà, il y a un membre du groupe qui a des mortiers, qui est fiché S. Voilà, ces tiraillements, ces conflits, comment on en discute et comment on essaie de les régler politiquement, collectivement, dans les groupes affinitaires et plus largement dans les organisations. Mais il y a aussi à l'échelle de sa propre vie et de sa propre expérience.
Comment est-ce que le livre a été accueilli, d'une part dans les espaces éventuellement militants où vous avez pu le présenter, d'autre part dans vos espaces professionnels?
Dans les espaces militants, on a eu de très bons retours. Les gens ont apprécié qu'on documente en fait ce qui s'était passé, et surtout que ça soit des matériaux assez bruts. Quand on présentait à Angoulême, il y a une dame qui a pris la parole. En fait, son fils était à Sainte-Soline, et elle a pris le bouquin à son fils. Ça lui a fait beaucoup de bien de lire ce qui s'était passé, avoir un autre point de vue aussi que le point de vue médiatique. En termes de relation avec les proches, c'est important d'avoir d'autres supports aussi de diffusion qui ne soient pas forcément son récit à soi, mais un truc plus collectif comme ça, dans un objet légitime qui est un livre. Et puis dans le milieu académique, en fait, on est assez sceptique parce qu'on se disait, c'est pas de la sociologie académique qu'on a fait. Les collègues sont très très contents, c'est assez bien reçu. Et en fait, on est aussi à une période où il y a beaucoup de chercheurs qui s'engagent sur les questions écologiques. Il y a pas mal d'organisations, en fait. Alors, plus des personnes qui sont peut-être dans le milieu des sciences naturelles. À notre échelle, j'ai l'impression que ça nous montre aussi ça, que nos collègues nous disent, c'est pas mal, quoi, de faire ça.
Voilà, on a plutôt des bons retours. Les rencontres font souvent l'objet, voilà, d'échanges, de discussions super intéressantes, aussi avec des points de désaccord. Bon, on se protège un peu, on n'est pas les stratèges de mouvement, donc on est là pas pour dire comment faut faire, et voilà. Il y a aussi l'occasion de permettre à des personnes de parler de Sainte-Soline, y compris pour ceux et celles qui n'ont pas eu l'occasion de le faire. Je pense à une jeune femme, en fait, qu'on a rencontrée là sur une rencontre à Poitiers, et donc elle était à Sainte-Soline, et en fait elle était en Erasmus à ce moment-là, et dès le dimanche elle a dû repartir en Allemagne. Et en fait elle a eu l'occasion d'en parler avec personne, et elle s'est rendue compte après coup qu'en fait... elle sursautait au moindre bruit, qu'elle pleurait souvent. Voilà, moi, ça m'a permis aussi de la mettre en lien avec des personnes qui s'occupent des traumatismes liés à Sainte-Soline, puisqu'il y a dans le soin qu'on évoquait tout à l'heure, il y a aussi ça qui a été mis en place par les organisations avec du soin psychologique ou de méthodes post-traumatiques. C'est un bouquin où il y a de la socio dedans, mais c'est pas un bouquin de sociologie. Enfin, on a la chance malgré tout d'être... en sociologie, qui est quand même pas une discipline complètement neutre en termes d'attention au mode social, attention aux conflits, aux luttes, aux rapports sociaux, et donc à la question des inégalités, d'un certain nombre de choses. Donc on est aussi tous dans le collectif très nourris du travail de Pierre Bourdieu. Un certain nombre d'entre nous sont venus à la sociologie par Pierre Bourdieu, et là je parle par exemple de moi. Pourquoi je me suis inscrite en fac de socio, c'est aussi parce que j'avais entendu parler du travail de Bourdieu. J'avais 20 ans en 95, la mobilisation des cheminots. Grosse grève partout en France, gros blocage un peu partout en France. Et en fait, c'était déjà une tentative de réforme de la retraite des cheminots et des régimes spéciaux de retraite. Sauf que les cheminots ont bloqué, et ils ont bloqué le pays. Et donc, ça a fait une grève très longue. Et Bourdieu est descendu du Collège de France. Enfin, j'exagère, mais voilà, son travail a pris une dimension politique, ses prises de parole ont été plus ouvertement politiques. Voilà, il y avait une logique néolibérale qui était nouvelle, qui, en fait, accentuait la destruction des services publics, enfin, des choses, en fait, qui n'ont été que confirmées et accentuées depuis. Voilà, donc on est aussi dans une discipline avec des auteurs qui ont autorisé le fait que nos travaux doivent avoir une utilité sociales doivent être appropriées par les citoyens, par les militants, par un certain nombre d'acteurs de la société. Pour moi, il y a une continuité logique. Voilà, est-ce que vous êtes chercheur ou est-ce que vous êtes militant? Ce bouquin, c'est... Ben, en fait, on est un peu tout ça à la fois et on essaie de tenir ces deux positions à travers ce livre.
On a été complètement soutenu par notre laboratoire. En fait, il y a un petit laboratoire de recherche qui s'appelle le Glasgow.
Comment c'est un petit ?
Petit par les financements. Petit par les financements qui reçoit. C'est un labo CNRS, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est une unité de recherche. Le directeur du laboratoire a encouragé, tout comme nos collègues. Ils ont donné un peu d'argent pour financer le livre, parce que ça coûte un peu cher. C'est un éditeur indépendant, voilà. Si on n'avait pas eu un capital de départ, on n'aurait peut-être pas pu avoir les pages couleurs, en fait, pour le livre. Sur l'autre auteur institutionnel, les universités, par exemple, ne nous contrôlent pas parce que ils s'intéressent pas à ce qu'on fait.
En fait, on est quand même aussi à l'université, mais comme dans tous les services publics, ultra malmenés depuis très longtemps. Donc on est dans la violence institutionnelle dont on parlait tout à l'heure. Donc conditions de travail, mais surtout, on pourrait dire, les conditions d'accueil des étudiants se dégradent de manière régulière, en tout cas. On a encore des marges d'autonomie malgré tout, en tant qu'universitaire. Si on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour faire notre recherche, nous, on a besoin d'un magnéto, là, et puis un peu d'un ordinateur pour écrire, et encore. Globalement, on peut faire de la recherche avec peu de moyens. C'est pas la même chose pour les collègues en physique, qui ont besoin de matériel qui coûte cher, qui ont besoin, en fait, d'avoir beaucoup d'argent. La recherche, elle est nécessairement financée par de l'argent privé. Toutes les recherches, c'est sur appel à projet, donc on doit faire un gros projet. Ce sur quoi on va chercher, il faut donc dire qu'on fait de l'international, du pluridisciplinaire, mais il faut aussi faire un budget dans lequel il y a au moins 50% qui vient du secteur privé. Donc autant vous dire que ça ligote complètement la recherche, hein, et c'est par exemple ce que raconte très bien, enfin pas dans l'ouvrage là, mais Anne-Morouane Pastier, donc docteur en hydrogéologie. Elle l'a dit un petit peu dans le livre, qu'il a décidé de quitter la recherche académique, parce qu'en fait, ce qu'elle voit, c'est que en fait, toutes les recherches sur l'eau, par exemple, sont financées, je vous le donne en mille, par qui ? Comment ? Veolia, Nestlé, voilà. Donc en fait, enfin, il n'y a plus du tout de liberté. Donc nous, humblement, on s'est dit, ben, en fait, on a un peu d'autonomie malgré tout dans nos métiers. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire des recherches, pour faire des entretiens. Effectivement, notre institution quand même regarde ce qu'on fait, mais uniquement d'un point de vue quantitatif. Est-ce que vous avez publié suffisamment d'articles dans des revues de rang A, enfin avec des classements et des hiérarchies? Bon, à partir du moment où on fait staff, globalement, on peut faire des choses. Donc on s'est saisi de ça aussi.
Est-ce que vous ne croyez pas quand même qu'il y a une surdimension, une surinterprétation de l'influence des médias sur les événements? Je ne suis pas sûr que l'influence des médias sur la population en France soit aussi forte qu'elle est décrite.
Mais moi, je distinguerais différentes choses et différentes temporalités là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a la temporalité de l'après Sainte-Soline et de comment médiatiquement, dans les médias, et notamment les chaînes d'information continue, chez CNews, dans les médias plutôt réactionnaires et plutôt traditionnels, cette séquence politique et cette répression, elle a été traitée. Il y a ensuite, effectivement, tout le travail qui a été fait par des militants, par des médias alternatifs, indépendants, pour essayer de rétablir des faits. Et donc, bah, cette couverture médiatique à charge contre les mobilisations anti-bassines, elles ont quand même permis, médiatiquement, que des médias centraux comme Le Monde, Libération, plutôt de la presse écrite d'ailleurs, s'intéressent au sujet des méga-bassines, s'intéressent à la question de l'eau. On a une petite victoire qui était difficile à dire, parce que quand on avait 200 blessés, dont 40 avec des pronostics difficiles et 2 en pronostics vitaux engagés, c'était un petit peu difficile de dire, mais il y avait quand même la victoire qu'on a réussi à mettre à l'agenda médiatique et politique la question de l'eau, qui jusqu'à présent était passée complètement sous silence. Donc ça, c'est effectivement une victoire. Mais globalement, moi je pense qu'il faut aussi se méfier, voilà, de nos impressions. C'est pour ça aussi qu'on est un peu sociologue, c'est que, oui, autour de nous, on peut se dire, oui, quand même, les gens ont l'air plus favorables, les gens ont notre regard, mais en fait, bon, si on va voir dans d'autres milieux très éloignés, on trouve que quand même, ces gens sont extrêmement radicaux, que ces gens qui manifestent de manière très violente, ça va vraiment pas, qu'on a besoin d'ordre dans cette société, que ça va peut-être leur faire la leçon d'avoir été réprimés de cette manière-là. Quand même, la question de l'agriculture, il faut bien nourrir le monde. On a besoin d'eau, donc l'agriculture a besoin d'eau. C'est une bonne solution, en fait, parce que, il y a des sécheresses, mais regardez, vous avez vu cet hiver comme il a plu, il faut prendre l'eau quand elle est là, elle est là, il faut remplir les bassines, c'est une très bonne solution. Donc méfions-nous de nos entre-soi sociaux et militants, même quand on a l'impression d'aller au-delà de ces cercles-là et de découvrir des gens un peu différents de nous, en fait, on reste quand même dans des proximités sociales qui trompent notre regard, quoi.
La commission d'enquête de l'Assemblée nationale, si vous ne l'avez pas vu, je vous la recommande. C'est comment l'Assemblée nationale mène son enquête sur qu'est-ce qui s'est passé.
Effectivement, le,
la vidéo, puis le rapport, c'est assez terrifiant en fait. Hein. Il y a une volonté d'un certain nombre de parlementaires, alors, dans des formes de répression non plus policière et non plus physique, mais alors toutes les tentatives ont été faites, y compris là sur d'un point de vue judiciaire, en fait, avec des aussi qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent, mais un certain nombre de militants qui ont été jugés et puis condamnés. Mais il y a aussi ce rapport parlementaire. Donc là, on essaye par la voie politique, en fait, de réprimer. Donc voilà, il y a des propositions d'élargissement des peines d'interdiction de manifestation ou de recours à l'intelligence artificielle pour surveiller les militants et militantes. Donc des choses qui, en fait, sont déjà existantes dans les pratiques, mais qui, là, vont être... un recours légal pour pouvoir être fait.
Sur la question de la condamnation de la solidarité, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a aucune organisation parmi les organisateurs, en fait, qui s'est désolidarisée, en fait, des événements. Et ça, c'est sans doute une première des initiations comme celle-ci, avec un tel niveau de violence, là où, en fait, dès qu'il y a une manifestation où il y a 2-3 dégâts, il y a toujours la CFDT ou le PS qui va dire « attention ». Si, le PS était à Sainte-Soline,
en fait. Ou la CGT aussi, qui va dire « c'est les Black Blocs ». La violence, c'est les Black Blocs. Nous, on a notre service d'ordre, ça n'arrive pas. En fait, c'est plutôt ça. Et donc, il y a une désolidarisation. C'est assez classique dans les manifestations jusqu'à présent. C'est quand il y a des formes de violence, c'est on renvoie à un groupe, un groupuscule, voilà, les autonomes, les Black Blocs. On ne sait pas trop parfois comment les appeler. On mélange un peu tout ça. Et globalement, c'est eux les violents. Et on se désolidarise en disant « nous, on est des gens sérieux, on manifeste ». Et voilà. Et là, en fait, il n'y a pas du tout eu ça, il n'y a pas eu cette désolidarisation. L'ensemble des organisations, là, je parle en termes d'organisation, les soulèvements de la terre, sinon merci, la Confédération paysanne même, qui a plutôt une habitude de désobéissance civile, mais très attachée à la non-violence, qui se pose aujourd'hui des vraies questions sur toutes ces mobilisations. Il n'y a pas eu, en tout cas pour ces trois... organisateurs principaux de la manifestation, mais tous les 40 autres associations, des gens qui ont dit c'est eux là, habillés tout en noir, c'est eux là les fautifs. Pour Bassine Non-Merci, on a une jeune militante qui s'appelle Noémie, qui a 28 ans et qui nous a écrit un très beau texte. Et son texte, il finit comme ça. À l'heure où j'écris ce récit, après plusieurs mois de prise de recul, je suis soulagée de voir que le découragement et la terreur n'ont pas gagné. Ces derniers temps n'ont pas été faciles pour nos collectifs, mais plusieurs actions locales réussies nous ont remobilisés et redonné confiance en notre capacité d'agir ensemble. Alors que nous sommes la cible d'une répression judiciaire éprouvante, le convoi de l'eau, en août 2023, et les nombreux rassemblements en solidarité aux inculpés nous ont réunis, soudés, renforcés. Les récentes décisions de justice annulant les projets de Bassine dans le Poitou et le rejet par le Conseil d'État du projet de dissolution des soulèvements de la terre nous prouvent que des victoires sont possibles, que nos arguments sont légitimes. Elles alimentent la joie. Je suis rassurée car j'ai le sentiment que nous avons retrouvé une force nécessaire pour assumer l'ampleur des tâches qui nous attendent aux prochaines étapes. Je nous observe aujourd'hui nous remettre en action en direction d'une mobilisation grandiose l'été prochain. Nous prévoyons une semaine complète de camps et d'actions diverses. La machine à rêve collectif s'est remise en route. Ouf ! Après Sainte-Soline, il nous semble encore plus indispensable d'étirer le temps de ces événements pour profiter de la convergence des énergies militantes et pour avoir le confort de réfléchir collectivement à la diversité des gestes que nous voulons porter. Une semaine ne sera pas de trop. Nous voulons avoir le temps de comprendre comment s'incarne notre volonté de faire front commun pour la protection de l'eau, de la biodiversité, des terres, des libertés fondamentales. J'espère que nous réussirons à démultiplier le potentiel transformateur et émancipateur de ce rassemblement. Je sais que cela sera, une fois de plus, très intense et chronophage pour nous tous et toutes impliqués dans l'organisation. Nous avons conscience que nos rythmes de vie vont à nouveau en être bouleversés. Mais je me sens apaisée car pour moi, notre décision représente déjà une réussite. Celle de ne pas avoir cédé au fatalisme et à l'immobilisme que le gouvernement a tenté de nous imposer. No Basaran.
Et voilà les amis, c'est ici que prend fin cette rencontre avec les sociologues Hélène Stevens et Gwendal Roblin du collectif du Loriot, deux des auteurices d'Avoir 20 ans à Sainte-Soline, publié aux éditions La Dispute. Et dans nos prochaines émissions, vous verrez que loin d'avoir décapité l'opposition aux méga-bassines et à leur monde de mort, le pouvoir a au contraire renforcé le mouvement, comme constaté au village de l'eau de juillet 2024, dont on va donc beaucoup vous parler dans les temps à venir. Vous pouvez réécouter cette émission et plein d'autres sur les méga-bassines sur notre site polémix-et-la-voix-off.com. Avant qu'on se retrouve très bientôt sur votre radio préférée, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut!
les sangles au long des rivières Poitevines. Je répète, les sangles au long des rivières Poitevines blessent mon cœur d'un sec d'automne. Méga Radio, une radio éphémère de lutte et de résistance contre les méga bassines.
Capsule sonore, tournée montée, à H de la traversée des luttes de l'eau.
En roue libre, no border.
On balbutie un peu en radio.
Alors on espère pas trop vous bassiner.
Indulgence, joie et amitié.
I touch the beginning, animating animals and tree gods, scratching out legends in cave walls. The days poured down into night as we watched. We mapped stars and peaks, we fought beasts, we caught food for the feast, and we walked two abreast to receive the bound wheat. The grass was black and strange. As we raised plains to ash, we laid claim. We exchanged grains and we made pacts. And we clashed and we strained, and the rains lashed. The young maids were brave, but they were made to lay flat. The old ways were too ingrained to make the rain snap. So we laid traps. We gave our names back to the saints. We sang out thanks and complaints. We burned fat, arranged bones in the flames. Each bird a great catch. Our songs were spells, and our spells were plain facts. She lay down in the road where the people go by, and she declared herself willing to try. I lay down beside her, but all I could see were the feet as they walked over me. That's when she told me I was holy elixir. She said I thought I knew the world, but it was only a picture. She said we're all written in the holiest scripture. It's just we're living in this time. It says no inhibitions, get yours. Keep going the distance, no limits. And don't bother protesting because nobody listens. Besides, all your solutions dissolve under scrutiny. You can't stand the note of derision. Instead, seek approval to justify your existence. Have opinions but have no resolve or conviction. Just keep your head down, breathe the fumes and indulge your addictions. Routine is healthy, ignore the affliction. The cost to the soul and the constant constriction. Don't consider too closely, have no intermission. Keep throwing your fists in slow repetition. Most of us manage what makes you so different. What makes you so different, what makes you so. Now you see my bright spark, take the road with the pilgrims. Head for the temples of democracy, freedom, growth, reason, liberty, hope. But don't pay attention to what's hanging from the rope. Decode the language, unfold the symbols. Untold disciples got lost in the hillside. Following intellect, they let go of wisdom. Now they'll tell you the soul's a closed system. They sacrificed instinct to phony ambition. Now what they hold in their fists has become all that there is. But total existence needs meaning and myth. Many misjudged the way and got lost in the mist. She said your loneliness is the symptom, not the sickness. And the moment her lips said peace, my peace melted. I became a memory. I felt myself peel. I was atoms, I was magnesium, I was calcium, I was real. She said, we are born of collision. We are divisions of a bigger vision. And yet, we run around like hamsters spinning the wheel. 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 I was on my knees then. I was begging for pardon. I was old and I was clothed in white garments in a vast red desert where the rocks were dark blue and varnished. That's when the voice said, this is the garden. Now you better start sowing or there won't be a harvest. We'll be right back.
gone with a burner cell phone. Desert Eagle 50 cal imprint on the backbone. This one is not to be tested unless you got Smith and Wesson quick at your disposal. If not, better to head back home. This is a business, the uniform isn't unusual if you make killing a job. Money is good when it's coming from behind prison walls for someone who need to get off. Plus it probably be the 9 to 5 and there is time to be outside instead of sitting at a desk and making calls. And for anyone to stay alive up in the jungle, you should figure out a way to carry no remorse at all. All day long it is bombs over Baghdad, right in the backyard. No service, no draft. No reason to go out, but it's no reason to stay in when the roaches are all raiding and your neighbors bumping black flags. Tired of living like this, but not ready to die, cause he isn't notorious yet. Everyone wants to be somebody known for doing something people call glorious. Yes. So we keep it pushing through the blood and all the gunning down of people that he knew and loved who just ran out of time. And a mantra that is bumping on the Walkman in the pocket, probably something that's synonymous to money on the mind. It's action. No time for your planning. The lifespan like this fuse is too short. That rocket is taking off. Taking off. Taking off. It's taking off. Party in the sky. Thug Mansion was real as it turns out. These gangsters ride rockets. They taking off. Taking off. Taking off. They taking off. What is in the mind of a motherfucking killer when he chilling on the porch with his daughter in his lap? Peace. That man just doing his job, fam. No demons for the damn mean, and if they live in hell, they can't bring it to you, you see? What's a goon to a goblin? Essentially, living in the ghetto cause the rent is cheap, and the cost of living is the life you live in, and the life you live in is the nicest given that you ice the living dead. They cry for more of that good poison, that hood oil, that cash cow. Need cash now, just add water and back.